Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion. Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui, nous parlons route de la soie et plus exactement nouvelle route de la soie. Le pouvoir chinois met aujourd'hui ce concept à la mode, 2300 ans après que les premières caravanes de marchands aient commencé à sillonner la Chine et l'Asie jusqu'en Europe, convoyant d'abord de la soie, d'où le nom. Alors, pourquoi ces nouvelles routes de la soie? Que cherche exactement le président chinois Xi Jinping? La mondialisation dont la Chine a amplement profité marque-t-elle le pas? Quels bénéfices pour les nations associées à ce projet? Voilà quelques-unes des questions que je vais poser aux trois invités que je vous présente maintenant. Bonjour Philippe Lecor.
Bonjour Jean-Pierre Boris.
Philippe Lecor, vous êtes en duplex de Washington dans un studio radio de la Brookings Institution, un des grands think tanks américains où vous faites de la recherche. Philippe Lecor, voilà longtemps, très longtemps que vous vous intéressez à la Chine. Dans les années 80, si je ne me trompe, vous étiez le correspondant de RFI à Hong Kong. Et l'an dernier, vous avez publié un livre qui s'appelle « L'offensive chinoise en Europe » aux éditions Fayard. Est-ce que dans ce livre, vous évoquez la route de la soie ou les nouvelles routes de la soie?
Un tout petit peu, mais dans la version anglaise. Mais en tout cas, c'est un concept qui n'a fait que se renforcer ces dernières années. Donc, ce n'est pas le sujet principal, mais il est clair que le but de la route de la soie, et j'y viendrai un peu plus tard, c'est effectivement l'Europe, la destination finale de la route de la soie.
Alors, on va y venir avec vous, Philippe Lecor, à Washington, mais aussi avec les autres invités qui sont dans ce studio. Bonjour, Jean-Paul Larson.
Bonjour, Jean-Pierre Boris.
Jean-Paul Larson, vous avez dirigé HEC, la grande école de commerce française. Vous enseignez toujours la gestion stratégique internationale. Vous travaillez depuis 30 ans avec des entreprises chinoises. Vous avez coordonné un gros livre qui est intitulé en français dans le texte « The New Silk Road ». China meets Europe in the Baltic Sea region. Je traduis pour ceux qui ne parlent pas la langue de Shakespeare, la nouvelle route de la soie, la Chine à la rencontre de l'Europe sur la mer Baltique. Un livre en langue anglaise, donc, qui rassemble les contributions de chercheurs français, chinois et baltes, essentiellement lituaniens. Pour le béotien que je suis, c'est un peu surprenant, cette rencontre, cette jonction entre la Chine et la zone baltique.
Oui, mais pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, l'initiative chinoise de route de la soie, on commence à bien la connaître depuis simplement 2-3 années, 2013. Donc j'ai choisi un terrain d'expérimentation, si on peut dire, assez focalisé. Mais cette mer Baltique, elle est intéressante parce que elle est le réceptacle, en quelque sorte, de la route de la soie par les deux voies, la voie maritime. Le plus grand port de la Baltique, c'est Saint-Pétersbourg. Hein. Donc les bateaux chinois arrivent à Saint-Pétersbourg.
Où font
escale à Helsinki, à Gdansk, en Pologne, etc. Donc la voie maritime arrive là, bien sûr. Mais aussi la voie terrestre. Autrement dit, si on prend le train à partir de l'ouest chinois, de Wuhan ou de Chongqing, qu'on veut bien traverser le Kazakhstan, on peut arriver très vite où ? À Minsk, qui, comme vous savez, c'est entre Berlin et Moscou, c'est en Biélorussie. Et si on veut aller jusqu'à la mer, on va au port de Klaipeda, qui est en Lituanie. Voilà l'histoire.
Alors, on va reparler de tout ça, mais je termine ce premier tour de table par vous, Laurent Bouy, bonjour.
Oui, bonjour.
Laurent Bouy, vous êtes documentariste, vous avez à votre actif une série très longue de films documentaires dont beaucoup concernent l'Afrique, que ce soit l'Éthiopie ou le Mali. Si je vous ai invité à ce micro, c'est que le film que vous êtes en train de monter en ce moment même, que vous avez donc tourné avec deux journalistes, Nicolas Sridi et Pierre Thyssen, et qui sera diffusé à une date inconnue encore à ce jour sur la chaîne de télévision franco-allemande Arte, que ce film est consacré à la route de la soie dont on parle dans cette émission. Où est-ce que vous avez tourné?
Oui, exactement. Là, pour ce film, on a choisi d'essayer de mettre des images sur ce grand concept, effectivement, du président Xi Jinping. On a choisi de suivre une des routes de la soie, parce qu'il y en a plusieurs, on va en parler. On a choisi de suivre une des routes la peut-être la plus avancée, donc qui part de Chongqing, qui est vraiment la très grande ville industrielle de l'intérieur chinois, et qui traverse tout l'ouest de la Chine, le Kazakhstan, la Russie, et qui va, en passant justement par Minsk, qui va jusqu'en Allemagne, à Duisbourg, à côté de Düsseldorf.
Alors on va voir ça tout au long de cette émission, avec de nombreux reportages. Nous partirons en Chine, rejoindre Heike Schmidt, au Pakistan avec Michel Picard, en Géorgie avec Arnaud Contreras, et en Belgique avec Lakshmi Lotha. Alors on va commencer par le début, Philippe Lecor, quelle définition donner de ces nouvelles routes de la soie? Vous avez commencé à l'ébaucher dans votre première réponse, mais quelle est la définition globale de ces routes de la soie qu'il est possible de donner sur un plan économique?
Alors d'abord, c'est les Chinois insistent sur le fait que ce n'est pas une stratégie mais une initiative. Donc c'est et le nom qu'ils utilisent en anglais, je crains que la traduction française ne soit pas très jolie à entendre, c'est One Belt One Road. Donc si vous voulez une ceinture, une route, mais en fait c'est pour montrer la multiplicité des voies. En fait ce concept il est simple.
Mais pourquoi une ceinture?
Eh bien, pourquoi une ceinture? Parce que c'est, si vous voulez, on part de Chine et puis on fait le tour, soit au sud, soit au nord, soit par la terre, par l'Asie centrale, par le Pakistan, par le Caucase du sud, par l'Iran. Enfin, il y a différentes voies possibles au nord, je dirais. Et puis au sud, ben, c'est évidemment le retour de la Chine maritime, à travers la mer de Chine du sud, et à travers le canal de Suez jusqu'au port d'Athènes, qui est d'ailleurs géré par une société d'État chinoise.
Le Pirée.
Donc, si vous voulez, voilà, le port du Pirée. Donc le concept, il est simple, c'est principalement la construction d'infrastructures, donc de routes, d'autoroutes, de chemins de fer, mais aussi de câbles, vous voyez, de fibres optiques, tous ces concepts qui finalement vont permettre à la puissance chinoise de se déployer, parce qu'on n'est pas... c'est une stratégie quand même économique avant tout. Vous souvenez du traité transpacifique que le président Obama avait essayé de faire passer avant de partir. Et là, bon, il part dans quelques semaines, mais ça paraît totalement compromis dans la mesure où son successeur va annuler le traité transpacifique. Et bien, la route de la soie, ce concept de One Belt One Road, était un peu une réponse chinoise à ce projet américain de finalement faire une sorte de traité entre 12 pays du Pacifique. Là, ce n'est pas un traité, c'est un accord, si vous voulez, entre 67 pays. Donc c'est beaucoup plus grand, mais c'est en même temps beaucoup moins précis. C'est-à-dire que c'est un concept qui regroupe des gens qui sont d'accord avec cette idée de construire des infrastructures et de relier les pays les uns avec les autres. Par exemple, le Pakistan est un très bon exemple, puisque le port de Gwadar va donner accès à la Chine, le port de Gwadar qui est donc au Pakistan, va donner accès à l'océan Indien. Donc si vous voulez, c'est un exemple de projet concret.
Gwadar, il en sera question dans la deuxième partie de cette émission, avec un reportage de Michel Picard en particulier. Laurent Bouy, cette route de la soie dont Philippe Lecor parle, c'est ce que vous avez traversé là au cours des semaines pendant lesquelles vous avez tourné ce film?
Alors oui, c'est une. Nous, on a suivi encore une fois une des routes possibles, hein, parce que comme on vient de le rappeler, ce projet, ça concerne beaucoup de pays et donc beaucoup d'itinéraires. Donc nous,
quand on est sur une de ces routes, qu'est-ce qu'on voit? Des ponts, des routes?
Qu'est-ce qu'on voit très concrètement en Chine, en tout cas? Qu'est-ce qu'on voit effectivement? C'est des autoroutes flambant neuves, puisque nous, on a suivi la route qui part vers l'ouest de la Chine. Il suffit de regarder une carte du maillage de routier de la Chine pour comprendre. Dans la partie est, on a un maillage extraordinaire, et pour aller dans la partie ouest, c'est-à-dire en direction de l'Asie centrale, en passant par le Xinjiang, il y a un seul passage possible. C'est en longeant le désert de Gobi, et c'est le passage historique de la route de la soie
antique.
Donc, ce qu'on voit en Chine, c'est qu'effectivement, les Chinois ont mis à niveau cette route, qui est donc devenue une autoroute jusqu'à la frontière du Kazakhstan. C'est une 2x2 voies avec des ouvrages d'art assez impressionnants dans les parties les plus montagneuses, doublée par une ligne de TGV, hein, qui fait 2000 km entre le maillage, encore une fois, de l'Est et la ville d'Urumqi, qui est la capitale de la province du Xinjiang. Donc cette ligne de TGV, elle est ouverte depuis 2 ans, c'est très nouveau. C'est une prouesse technique et technologique parce qu'on traverse des zones qui sont soumises à des vents de sable qui sont très violents, à des amplitudes thermiques entre l'été et l'hiver qui sont très 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 importantes. Donc là, on a vraiment une prouesse technologique. Donc voilà, ce qu'on voit en Chine, c'est une autoroute, une ligne de TGV, des lignes de chemin de fer pour transporter du fret, et tout le long de ces itinéraires, c'est des zones économiques spéciales et des villes qui poussent.
Alors, Jean-Paul Larson, vous avez cité tout à l'heure, je crois, le nom de la ville de Chongqing. C'est un lieu important sur ces routes de la soie?
Oui, parce qu'un aspect de la route de la soie, c'est que ça va favoriser le développement économique des régions enclavées sur le parcours, et ça commence par les provinces de l'ouest chinois. Donc si on est pas forcément dans l'extrême ouest de Urumqi, mais si on est à Chongqing, si on est à Chengdu, si on est à Wuhan, on est très content, parce que sinon, pour exporter nos marchandises, si on travaille dans ces régions-là, il faut aller déjà au port de Canton de Shanghai, donc on perd beaucoup de temps. Donc là, avec la voie terrestre, on peut aller beaucoup plus rapidement vers l'Europe. Et puis ce qu'on voit, et je rajouterai ça aux autoroutes, on voit surtout non seulement des trains rapides, mais des millions de containers qui vont d'est en ouest. Ils repartent un peu vides, les containers. Mais si on est enclavé, j'en viens à l'ouest chinois, ou si on est au Kazakhstan, ou au Kyrgyzstan, ou en Biélorussie, c'est une bénédiction parce que tout d'un coup, on se trouve sur une route commerciale. Donc il faut avoir quelque chose à vendre. Si on n'a rien, on est embêté, on regarde passer les trains. Mais si on a une activité locale, on peut l'exploiter et aussi exporter vers la Chine.
Alors, Chongqing, je ne vous posais pas la question par hasard, mais parce qu'on va y aller. C'est une mégapole de 30 millions d'habitants dans la province du Sichuan, dans l'ouest de la Chine dont vous parlez. C'est une ville qui est grande comme l'Autriche, qui est construite à flanc de colline, le long du fleuve Yangtze. Cette ville affiche le plus fort taux de croissance du pays. En quelques années, elle est devenue une plaque tournante du commerce international grâce à la ligne de chemin de fer dont vous nous parliez, qui relie la ville de Duisbourg en Allemagne, qui va jusque là-bas, Chongqing, au départ de la route de la soie chinoise. C'est un reportage Éco-d'ici, Éco-d'ailleurs, signé Heike Schmidt.
Masque de protection plaqué sur le visage, les ouvriers soudent l'habitacle d'une voiture de la marque Lifan. Petit à petit, les carrosseries avancent, calées sur une chaîne de production. C'est dans cette usine automobile que le projet phare du président Xi Jinping prend forme. Faire renaître l'antique route de la soie en exportant des produits fabriqués en Chine via le rail.
Avant, on exportait nos moteurs et voitures en Russie par la mer, mais ça prenait 45 jours. Grâce au train UE Sinoé, le temps du transport a été porté à 15 jours. Cette voie ferrée nous offre l'opportunité de trouver de nouveaux débouchés à l'étranger.
Le moteur économique de la Chine tourne au ralenti, mais Zhang Zuhai, bras droit du directeur général de Lifan, n'est pas inquiet.
Nous sommes optimistes. Nos exportations devraient croître de 25 à 30% en 2017. Nous avons déjà vendu nos produits à un tiers des 65 pays riverains de la nouvelle route de la soie. Nos moteurs sont exportés jusqu'en France, en Allemagne et en Italie. J'espère même que nos clients conduiront bientôt nos voitures de marque, Lifan.
Le transport sera le moindre des soucis pour Lifan. La gare de fret de Chongqing, point de départ du Usinan, ce train Asie-Europe qui avale 11 000 km et traverse 6 pays avant d'arriver à Duisbourg, en Allemagne. Wang Su, logisticien en chef du train Chongqing-Duisbourg.
7 trains partent chaque semaine. Chacun transporte au moins 41 containers. 4 trains reviennent dans la semaine. Au début, les containers de retour étaient à 80% vides. Mais depuis le printemps 2015, 80% sont pleins. On y trouve des voitures de luxe Audi et BMW, mais aussi du vin français et de la bière allemande.
Les wagons sont à peine déchargés que des camions sortent par dizaines de la gare ferroviaire. Une véritable caravane des temps modernes qui transportera la marchandise dans tous les coins de la Chine.
Les marchandises sont arrivées aujourd'hui. Je viens de charger mon camion pour les transporter vers Chengdu. Selon ce document des douanes, ce sont des produits suédois, partis de Duisbourg en Allemagne.
Des bulldozers terrassent les derniers champs pour faire place à un nouveau parc logistique, un investissement de 15 milliards d'euros qui doit attirer davantage d'entreprises dans le sillage des cinq géants de l'informatique. Hewlett-Packard, Acer, Asus, Toshiba et Sony. L'économiste Li Ting.
Avant 2010, Chongqing ne fabriquait pas un seul ordinateur. Aujourd'hui, nous en produisons 60 millions par an. Un ordinateur sur trois vendu dans le monde vient d'ici. Grâce au commerce extérieur, facilité par la liaison ferroviaire, Chongqing a pris son envol. Chongqing est désormais un pivot pour développer l'ouest de la Chine plus enclavé.
Go West Chongqing met en pratique ce credo grâce à des milliards d'euros de subventions déversées par le pouvoir central. Pékin veut faire de cette vibrante métropole un laboratoire de l'innovation et la pierre angulaire de sa nouvelle route de la soie.
Un reportage signé Heike Schmidt à Chongqing, donc dans l'ouest chinois. Heike Schmidt vient de nous le dire, il y a 65 pays riverains de ces nouvelles routes de la soie. C'est impressionnant, Philippe Lecor, comme chiffre.
Oui, je dois dire que pour avoir venant d'entendre ce reportage très intéressant, je voudrais quand même faire un commentaire. Il est clair que la Chine est l'initiateur, le pays initiateur de cette démarche, et que l'économie chinoise bénéficie directement de cette initiative de route de la soie. En revanche, les pays, les 65 pays dont vous parlez, je ne suis pas sûr qu'ils en bénéficient. Et je prendrai un exemple, puisque j'étais récemment au Kazakhstan et au Kyrgyzstan, et la Chine n'est pas aussi présente qu'elle peut l'être que dans d'autres parties du monde. C'est assez étonnant. Les deux des pays finalement les plus proches de la frontière chinoise, on parlait du Xinjiang, et notamment le Kyrgyzstan qui a 1500 km de frontière, eh bien vous ne voyez nulle part des panneaux chinois, des projets chinois, des voitures chinoises. Et finalement, il y a un problème dans cette région, notamment l'Asie centrale, c'est la concurrence avec la Russie, cette espèce de jeu qui a...
Oui, Philippe Lecor, qu'est-ce que cherche donc la Chine avec ce projet ?
Écoutez, c'est à l'évidence un projet de d'étendre l'influence chinoise à travers le monde qui est assez intelligent, je dois dire, parce c'est une sorte de chacun prend ce qu'il veut. Ça va jusqu'en Afrique, puisque vous avez un certain nombre de pays africains qui ont été inclus dans la route de la soie. En revanche, aucun pays du continent américain, ni du nord ni du sud, n'en font partie.
Donc évidemment, Jean-Paul Larson, est-ce que ça veut dire que Pékin craint pour sa croissance dans les années à venir? Est-ce que c'est une assurance pour l'avenir?
Oui, c'est un rapport direct avec ça. D'une part, le développement de l'Ouest chinois contribue au développement du marché intérieur, donc ça contribue à la croissance chinoise sur le marché interne. Mais l'autre volet, c'est une approche surtout commercial. Bien sûr, il y a des conséquences géopolitiques énormes, mais au total, ça facilite les exportations chinoises à l'étranger. Et un autre volet du plan, qui est l'investissement chinois à l'étranger, pour durer, pour faire des exportations durables vers l'Allemagne, il faut être présent en Allemagne. Donc, on peut pas dissocier les trains porte-containers des acquisitions par les Chinois de grandes boîtes allemandes. Donc, dans les deux cas, j'ai les deux piliers du développement de la Chine, le marché intérieur d'une part et le marché mondial.
Laurent Bouy?
Oui, exactement. Je pense que pour reprendre l'exemple du Kazakhstan, c'est vrai qu'on n'a pas énormément de présence chinoise au Kazakhstan, effectivement. Encore que on a la CNPC, qui est la Compagnie Nationale du Pétrole, qui est très présente à Aktao et autour d'Aktobe sur les grands champs pétrolifères.
Du Kazakhstan.
Du Kazakhstan, exactement. On a d'ailleurs on a du pétrole, on a un pipeline qui part du Kazakhstan et qui va sur le Xinjiang, où le pétrole est raffiné. Donc, on a un exemple de ce qui peut intéresser la Chine en Asie centrale, le pétrole, il y a les terres agricoles aussi. Il y a eu des problèmes au Kazakhstan l'année passée à cause d'une loi sur l'achat des terres agricoles. Donc les terres agricoles, ça intéresse la Chine. Manifestement, on est sur un projet à très long terme. Voilà, la Chine voit loin, comme d'habitude. Donc effectivement, la Chine se déploie avec ses infrastructures en prévision de l'avenir. Et ce qui intéresse la Chine, en tout cas, je pense en Asie centrale, c'est l'énergie, c'est les terres. Plus que le marché, effectivement.
Mettre la main sur les terres, sur le pétrole, c'est ça ?
Mettre la main de manière, pas forcément mettre la main, mais de manière commerciale, voilà, avoir des accords et pouvoir passer des accords commerciaux, effectivement.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, nous continuons à parler de ces nouvelles routes de la soie voulues par le pouvoir chinois dans 3 minutes, après un flash d'actualité. Restez à l'écoute.
Écho d'ici. Écho d'ailleurs sur RFI. Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion. Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans la deuxième partie de cet écho d'ici, écho d'ailleurs consacré aux nouvelles routes de la soie. Trois invités pour en parler. Philippe Lecor, chercheur à la Brookings Institution à Washington, auteur du livre L'offensive chinoise en Europe aux éditions Fayard. Jean-Paul Larson, professeur à HEC, coordonnateur du livre The New Silk Road, China Meets Europe in the Baltic Sea Region, et le réalisateur Laurent Bouy, qui travaille en ce moment sur un film consacré aux routes de la soie pour la chaîne Arte. Au cours de la première partie de cette émission, nous avons vu que ces nouvelles routes de la soie étaient multiples, 65 pays concernés, qu'il y avait des voies terrestres, ferroviaires, maritimes et j'en passe, qu'il y a aussi des ceintures de la soie, donc. Nous avons vu quelles étaient les ambitions de la Chine. Voyons un peu l'actualité chaude avec les récentes déclarations de Donald Trump. On pressent une dégradation des relations politiques et économiques entre Washington et Pékin, Philippe Lecor. Est-ce que ça ne justifie pas une réorientation de la politique économique chinoise vers cette Asie centrale, vers cette Europe ?
C'est déjà le cas. Je pense effectivement que si des mesures commerciales sont introduites par le président Trump et son administration, la Chine peut parfaitement se tourner encore davantage vers les régions que vous évoquez. Mais je pense que l'Asie centrale en particulier est une région où la Chine et la Russie sont les principaux acteurs et où l'Occident, que ce soit les États-Unis ou l'Europe, se sont un petit peu désengagés.
Jean-Paul Larson, vous n'avez pas l'air trop d'accord.
Je pensais à Alstom qui vient d'avoir une commande de 600 locomotives électriques pour pouvoir gagner quelques jours sur le trajet entre Korgos à la frontière chinoise et puis la Russie de l'autre. Oui, le Kazakhstan est pas très peuplé, il y a pas beaucoup d'entreprises, donc a du mal à bénéficier de l'opération chinoise, mais il est bien situé. Donc c'est une opportunité pour les entreprises kazakhes, y compris les entreprises agricoles dont on a parlé tout à l'heure.
Alors, je voudrais qu'on revienne sur l'Asie centrale que vous aviez tous les trois commencé à évoquer dans la première partie de cette émission. On a l'impression que les premiers pays concernés par ces routes de la soie, géographie oblige, ce sont ces pays d'Asie centrale qui étaient jadis des républiques soviétiques. 30 ans après l'effondrement de cet empire, ces républiques, est-ce qu'elles sont pas en train de passer dans une nouvelle orbite d'un nouvel empire qui serait l'empire chinois, Jean-Paul Larson?
Ben pour le Kazakhstan, oui, il va pouvoir manœuvrer dans l'idéal pour lui garder ses liens avec Moscou. Il y a des liens culturels et politiques puissants, mais en termes économiques, le Kazakhstan a intérêt à travailler avec la Chine. On a cité tout à l'heure l'exemple du pipeline qui traverse sous le Kazakhstan pour amener du pétrole en Chine. On a aussi l'exemple de ce port chinois au nord de Nanjing qui devient un port d'exportation pour les produits kazakhs. Donc oui,
les produits kazakhs rentrent en Chine, vont à Nanjing et repartent.
Je peux du Kazakhstan exporter vers le Japon à travers le chemin de fer de la route de la soie qui me mène dans les ports de l'Est chinois. Mais le point que vous avez souligné à propos du passé soviétique est très intéressant. La même chose s'applique, qu'on vient de décrire sur Asie centrale, aux 16 pays. La Chine a un concept appelé le 16+1. 16 pays d'Europe centrale, de la Baltique à la mer Noire. La Chine a choisi ça comme cible principale pour rentrer en Europe. La Grèce en fait partie, bien que ça soit un pays ex-soviétique, mais le bateau chinois qui arrive au Pirée maintenant, qui est géré par la puissance chinoise, qui est géré par Costco. Demain, on a le train rapide qui va amener les containers jusqu'à Budapest. Hein, donc la cible chinoise, eh bien, les pays ex-soviétiques, il y a un point commun, c'est des économies en transition, c'est l'entrée dans une Europe low cost, et si je suis à Budapest, je peux vendre en Allemagne et en France.
Ces pays d'Asie centrale en particulier, ils n'occupaient pas jusqu'à présent une place importante dans le commerce mondial. Est-ce qu'ils sont en train, Laurent Bouy, de retrouver une centralité dans ce maillage commercial mondial?
Bah oui, complètement. D'ailleurs, je pense que c'est pas un hasard si le président, on peut rappeler que le président Xi Jinping a annoncé le projet des nouvelles routes de la soie à Astana, avec le président Nazarbayev à l'université Nazarbayev. L'annonce a été faite là-bas, au Kazakhstan. Ça montre bien l'importance de ce pays et de cet ensemble de pays pour la Chine, effectivement. Oui, il suffit de regarder une carte.
Philippe Lecor, vous voulez intervenir?
Oui, je suis un petit peu plus réservé par rapport au rôle rôle du Kazakhstan. Je pense que, si vous voulez, selon les interlocuteurs que vous avez à Astana, vous avez une faction pro-russe, vous avez une faction pro-chinoise, vous avez une faction pro-kazakh. Ce sont des pays très compliqués, finalement. Hein. Et donc, l'influence de la Russie est très importante. Il y a un jeu, vraiment, entre la Russie et la Chine dans cette région. C'est la même chose au Kyrgyzstan, où il y a une base militaire russe. Et donc, l'aspect sécuritaire qui est géré par la Russie jusqu'ici, y compris la sécurité de l'énergie et de l'économie de ces pays, n'est pas à négliger. Donc, la Chine, pour l'instant, joue un rôle essentiellement commercial. C'est un peu à sens unique dans la mesure où elle construit des infrastructures pour ses propres produits, pour pouvoir ensuite vendre davantage ses produits et les exporter vers l'ouest, tout ce qui est à l'ouest finalement de la Chine, mais aussi par la voie maritime. Et donc pour l'instant, les pays de cette région ne voient pas vraiment totalement leur intérêt, si vous voulez. Ils connaissent la Russie, ils ont une relation de long terme, historique, ils ont une langue commune. Avec la Chine, c'est beaucoup plus complexe. La Chine n'a pas vraiment une présence durable. Pour l'instant, c'est essentiellement une démarche commerciale.
Laurent Bouy, vous avez été interrompu par...
Je suis assez d'accord, effectivement. On sent bien que le Kazakhstan essaye de garder un équilibre. Nous, pendant le tournage, plusieurs personnes nous ont dit que la Russie apporte la sécurité, la Chine apporte l'argent. Voilà. Donc, cet équilibre-là, effectivement... Parce qu'effectivement, la Chine apporte l'argent. Il y a quand même un volet qui est très intéressant dans ce projet des nouvelles routes de la soie. C'est le volet financement, avec la Chine qui a créé ses propres outils de financement et qui, donc, effectivement, peut avancer ses pions aussi à ce niveau-là. Et aujourd'hui, la Chine peut investir au Kazakhstan, la Russie a beaucoup plus de mal à le faire.
Jean-Paul Larson,
les relations sino-russes sont très intéressantes par rapport à notre problème. D'une certaine manière, la Chine peut préférer la route terrestre de la soie aux routes maritimes. Routes maritimes, on passe par des tas de détroits. On passe par des... on chemine à travers différentes nationalités. Si on a un accord, et on l'a déjà entre la Chine et la Russie, donc entre la Chine et la communauté des États indépendants, je sors de Chine à Korgos et je peux traverser sans coup ferré, arriver aux frontières d'Europe en Biélorussie ou en Ukraine ou en Pologne. Donc oui, c'est pas tout à fait symétrique, mais c'est vrai que du point de vue du Kazakhstan, j'essaye d'avoir les deux, l'argent chinois, le commerce chinois et la protection militaire russe, évidemment.
On va parler gros sous, vous venez de le faire, Laurent Bouy, mais ailleurs, parce qu'il y a l'Asie centrale, et puis au sud, un peu au sud-est, il y a le Pakistan, où la classe économique et politique ne tarit pas d'éloges sur le corridor économique sino-pakistanais, le CPEC, c'est le sigle en langue anglaise. Ce projet de liaison routière et énergétique comporte une foule de projets reliant l'ouest de la Chine à la mer d'Arabie. C'est une traversée du Pakistan du nord au sud, un investissement, tenez-vous bien, d'une quarantaine de milliards d'euros. Et c'est un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Michel Picard à Islamabad.
Première étape symbolique, ce 13 novembre, 300 conteneurs de marchandises chinoises ont pris la mer au port flambant neuf de Gwadar. Ils avaient quelques jours plus tôt, à 3000 km de là, traversé la frontière himalayenne pakistano-chinoise à 4700 mètres d'altitude. Le fruit d'un projet titanesque qui laisse espérer des lendemains chantants, selon Imtiaz Gul, directeur du Centre de recherche et d'études sécuritaires.
Quand les infrastructures et l'industrie vont se développer, cela va évidemment amener d'énormes capitaux, du travail et des productions qui quitteront le Pakistan, comme les exportations chinoises. Il faut bien garder à l'esprit que la promesse de milliards de dollars, 46 ou 50, concerne les trois prochaines décennies. Mais même si à peine 50% des promesses se réalisent, cela augure de grands changements au Pakistan.
So that will be a big change for entire Pakistan.
Aujourd'hui, le pays est en pénurie constante d'énergie. Même les plus favorisés de la capitale connaissent 6 heures de coupure d'électricité par jour, davantage encore pour le gaz. Avec ce corridor économique, la donne pourrait changer, à en croire l'écrivain et analyste de la vie pakistanaise, Zaya Hussein.
D'abord, les investissements sont difficiles dans le pays. Ces trois dernières années, les investissements étrangers ont radicalement diminué. Et la plupart des investissements, plus de la moitié, se font dans le domaine de l'énergie. Un domaine dans lequel la situation du pays est difficile. Donc, qui va en bénéficier ? L'industrie pakistanaise ?
Les remboursements de dettes liés au corridor et le rapatriement des bénéfices chinois devraient atteindre 0,4% du PIB chaque année, quelle que soit la réussite du projet. Un pari donc risqué, mais qui présente une opportunité historique, selon Zubair Khan, ancien du FMI qui fut ministre du Commerce.
Les problèmes économiques du Pakistan ne sont pas derrière nous. Notre démocratie est totalement infectée par la corruption, le népotisme. La loi au mérite n'existe pas. Nombreux sont ceux qui ne respectent pas les lois. Chacun cherche comment faire de l'argent sur ce projet. La Chine travaille dans son propre intérêt. C'est donc au Pakistan de protéger ses intérêts. Il nous offre une formidable opportunité et il est temps de mettre de l'ordre dans la maison pour en profiter.
Reste à savoir si la gestion des richesses à venir permettra de lutter contre une pauvreté alarmante dans ce pays où 24 millions d'enfants ne sont pas scolarisés.
Un reportage signé Michel Picard à Islamabad. On entendait un ancien ministre du Commerce nous dire que c'était au Pakistan de tirer les marrons du feu parce que les Chinois y roulaient pour eux, même en investissant de l'argent au Pakistan. Jean-Paul Arson, c'est quelque chose que vous partagez comme point de vue? Les Chinois, ils sont là essentiellement dans leurs intérêts, même à l'étranger, hors de leurs frontières?
En servant leurs intérêts propres, ils laissent quelque chose au pays d'accueil. Je pense à l'Algérie où les Chinois ont construit l'autoroute qui va d'est en ouest, qui va du Maroc à la Tunisie. Bon, à Alger, on se plaint un peu, il n'y a pas eu beaucoup de sous-traitants algériens, il y a eu une main-d'œuvre chinoise. Mais au total, vous êtes transporteur, vous êtes simple citoyen, vous avez une autoroute. Donc c'est la même chose pour le train pakistanais. Quand le gouvernement grec a hésité à confier la gestion du port du Pirée à Costco, mais il avait une bonne raison de le faire, c'est que la partie qui était gérée des terminaux déjà avant, une partie du port était gérée par Costco, était bien mieux gérée que le reste. Donc,
c'est et puis le pays était en faillite, donc il fallait s'en vendre.
Oui, le pays est en faillite. Je touche de l'argent et mon infrastructure marche. Elle accueille les Chinois, mais elle accueille tout le monde. Autrement dit, le Pirée gagne un avantage concurrentiel par rapport à Venise, par rapport à Marseille, par rapport à tout le monde. Donc oui, cette démarche chinoise, c'est totalement égoïste. Les Chinois, c'est leur intérêt. Mais au total, ça me laisse une infrastructure que je n'avais pas avant.
Dans un pays comme le Pakistan, Philippe Lecor, cette route de la soie, c'est un levier de développement, d'enrichissement du pays?
Vous savez, c'est une région qui est en crise. Hein. Le Pakistan, il y a effectivement énormément de chômage, etc. Bon, moi, je dirais une chose par rapport à la Chine et le Pakistan. Il y a une relation politique très importante, économique, mais il y a eu aussi beaucoup d'annonces. C'est-à-dire que ce n'est pas la première fois que la Chine promet des investissements au Pakistan. Ces sommes de 40 milliards de dollars qu'on entend, elles ont déjà été plus ou moins couvertes par des annonces précédentes, si j'ose dire. Donc, si vous voulez, on verra ce qui reste. Vous savez, la Chine... Il y a un effet d'annonce très important. Ce concept de route de la soie, il est suffisamment vague pour contenter tout le monde, mais en même temps, les gens ne sont pas dupes, que ce soit au Pakistan ou au Kazakhstan d'ailleurs. Par ailleurs, je dirais une chose, c'est que au niveau de la sécurité, il y a eu récemment 40 ouvriers pakistanais qui sont morts dans une attaque un peu obscure. La Chine doit absolument prendre en compte ce côté humain de ses investissements, c'est-à-dire qu'il y a le terrorisme, il y a la question de la sécurité. De ses infrastructures et puis de manière générale elle paye, si vous voulez, l'armée pakistanaise pour protéger ses constructions, mais un jour il va falloir que la Chine investisse dans cet aspect sécuritaire parce que les investissements sont trop importants pour être laissés entre les mains d'autres, si j'ose dire.
C'était Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI, nous parlons des nouvelles routes de la soie, le grand projet du gouvernement chinois avec trois invités. Dans ce studio, le documentariste Laurent Bouy et l'universitaire Jean-Paul Larson, et en duplex de Washington, Philippe Lecor. Autre pays qui était dans l'orbite soviétique et qui a pris son indépendance, la Géorgie. La Géorgie, elle aussi concernée par ces routes de la soie. Le vice-ministre de l'économie et du développement durable, Gennady Arveladze, est l'homme qui a mené les négociations avec la Chine sur les relations économiques induites par les nouvelles routes de la soie. C'est une interview Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signée Arnaud Contreras, de retour de Tbilissi, la capitale géorgienne.
La Géorgie est le premier pays du Caucase à avoir conclu un accord de libre-échange avec la Chine. Il a été signé en à peine 7 mois, un temps record pour une négociation commerciale.
la Géorgie souhaite devenir un partenaire important de la Chine en tant qu'acteur économique et en tant que plateforme de transport et de logistique pour les marchandises. Mais l'ambition de la Géorgie est également régionale, selon Gennady Arveladze, le vice-ministre de l'économie géorgien, qui a suivi ses négociations avec le vice-premier ministre et le ministre du commerce chinois.
Cet itinéraire est très important, mais la coopération entre pays pour développer cette voie de transit est tout aussi importante. Nous avons une coopération étroite avec la Chine, l'Azerbaïdjan, l'Ukraine et le Kazakhstan, ce qui permettra aussi aux cargos et à leurs cargaisons de naviguer de la Chine vers l'Europe au travers de cette route.
L'une des conséquences de ce rapprochement entre la Chine et la Géorgie est l'arrivée d'investisseurs chinois, à l'instar du Welling Group, qui a investi à Tbilissi depuis 2007, avant même la création de cette nouvelle route de la soie. Que ce soit dans la construction d'infrastructures, de barres d'immeubles d'habitation ou de centres commerciaux, le Welling Group est devenu un acteur important dans le Caucase. Le développement de produits financiers dédiés aux investissements est l'autre aspect sur lequel insiste Gennady Arveladze.
Nous avons des parts dans les infrastructures et nous sommes membres de l'AIIB, la Banque Asiatique d'Investissement. La Géorgie va ainsi pouvoir attirer des ressources financières pour développer des infrastructures tout le long de la route de la soie.
En parallèle, la Géorgie et la Chine ont également signé cette année un accord agricole. Elles souhaitent vendre ses vins et d'autres produits de ces terres sur le marché chinois. Mais la Géorgie a également des ambitions en Asie centrale.
La Géorgie a rejoint l'organisation CARIC, ce qui permettra de développer de nouvelles routes de transport, mais aussi un corridor qui peut impliquer de nombreux pays d'Asie centrale. Ils auront la possibilité d'acheminer leurs marchandises et de les exporter vers l'Europe en passant par la Géorgie.
C'était donc une interview du vice-ministre de l'économie géorgien, Gennady Arveladze, par Arnaud Contreras. Laurent Bouy, est-ce que ça vous parle, même si vous n'avez pas été en Géorgie, je pense, pendant ce tournage du film. Est-ce que les ambitions, les espoirs que ce vice-ministre géorgien place dans les routes de la soie, vous l'avez rencontré dans les autres pays que vous avez traversés?
Oui, je crois qu'en plus, c'est assez emblématique de la manière dont la Chine procède. C'est-à-dire que la Chine essaye de mettre en place ce qu'elle appelle des accords gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'elle négocie au coup par coup avec chacun des pays concernés par le projet. Voilà. Donc ensuite, on va dire que ça dépend un petit peu des régimes qui sont en place. En plus, la Chine n'est pas très regardante sur l'aspect politique. C'est-à-dire que contrairement aux Occidentaux, elle ne met pas de conditions généralement politiques à son aide. Voilà. Donc elle négocie au coup par coup avec les pays. Je pense qu'il y a un aspect qui est très important aussi que la Chine commence à comprendre, puisqu'elle investit, elle construit des ponts, elle construit des routes, tout ça aide au développement des pays, c'est très bien effectivement, mais on se rend compte que dans ces pays, les gens n'aiment pas les Chinois, et les Chinois ont beaucoup ont un problème avec ça, c'est-à-dire que la présence chinoise est mal reçue, par exemple en Asie centrale, au Kazakhstan. Donc la Chine commence à comprendre également qu'elle doit prendre en compte l'aspect culturel pour essayer de faire avancer ses projets d'investissement, c'est ce qu'elle fait par exemple avec des projets d'échange universitaire, des choses comme ça. Elle négocie au coup par coup, pays par pays, elle commence à comprendre qu'il faut également prendre en compte l'aspect culturel, je crois.
Alors c'est une problématique qu'on rencontre très souvent, ce que vous venez d'évoquer, dans les pays africains, où les Chinois ont investi beaucoup ces dernières années, depuis une dizaine d'années. Philippe Lecor, vous disiez au début de l'émission que les Chinois faisaient passer aussi leur route de la soie par certains pays africains, lesquels ? Comment est-ce qu'ils insèrent l'Afrique dans ce schéma ?
Écoutez, il y a de très nombreux pays d'Africains, que ce soit à l'Afrique de l'Est ou l'Afrique de l'Ouest. J'étais moi-même à une conférence sur la route de la soie à Pékin et il y avait la moitié des participants étaient africains il y a quelques mois. Donc je pense que...
Mais ça, c'est une pure construction de l'esprit.
Non, c'est-à-dire qu'il y a effectivement, comme disait Jean-Paul Larçon, il y a un lien entre une présence existante de la Chine et puis ce concept très vague de parapluie de One Belt, One Road, où finalement chacun joue sa carte. Donc il est clair que la Chine veut faire passer ce concept, et quand elle rencontre, quand les dirigeants chinois rencontrent leurs homologues, ils leur font signer un Memorandum of Understanding, ou un accord, si vous voulez, qui est totalement vide souvent et qui n'a aucun concept. contenu. On parlait de la Géorgie tout à l'heure, le vice-ministre n'a cité aucun chiffre. Il parlait de la Banque asiatique pour les infrastructures. Là aussi, si vous voulez, est-ce qu'ils vont en bénéficier ? Chacun essaie de jouer sa carte vis-à-vis des Chinois en acceptant de faire partie de ce jeu, parce que pour l'instant, c'est un jeu. Mais il est clair que la Chine, son intérêt, c'est de vendre ses produits sur le marché européen, parce qu'il y a 450 ou 500 millions de consommateurs qui vont acheter des produits chinois. Après, bien sûr, l'Afrique, il y a à long terme, il y a des possibilités, mais et puis il y a des investissements chinois. Mais pour l'instant, je pense que l'objectif, c'est l'Europe.
Jean-Paul Larson.
Le point, il y a plusieurs points d'entrée de la Chine en Afrique, dans le domaine de route de la soie. Vous savez que la Chine est présente au port de Colombo à Sri Lanka, ce qui lui permet d'éviter l'Inde. Et de Colombo, la ligne maritime va directement maintenant à Djibouti. Donc la Chine, là on n'est pas dans le concept, elle a des terminaux portuaires managés par elle à Djibouti. De Djibouti, elle veut organiser et probablement elle participera au financement de travaux de chemin de fer traversant l'Afrique d'est en ouest. Donc... Le concept est vague pour nous parce qu'on ne connaît pas les intentions secrètes de la Chine, mais je prétends que la Chine a un projet d'une extrême précision, d'une vision à long terme et dans lequel le but principal est économique, mais bien sûr elle prend en compte les facettes politiques et elle exploite en quelque sorte la division de ses partenaires. C'est-à-dire, si je propose quelque chose à Djibouti, je ne le propose pas au Kenya. Enfin, du moins, je ne dis pas qu'il y a chantage, mais voilà, c'est la Géorgie ou un autre. Un train peut passer à droite ou à gauche. Le train dont on a parlé tout à l'heure qui va à Duisbourg, après Duisbourg, peut continuer jusqu'à Lyon. Il est arrivé il y a quelques mois chez nous avec des pièces automobiles que de Peugeot, parce que Peugeot est à la fois à Lyon et dans l'Ouest chinois.
Alors, on reste en Europe. On a fait un très long chemin au cours de cette émission. La Chine, le Pakistan, la Géorgie, le Kazakhstan, mais ce n'est pas fini. Le terminus de ces routes de la soie, c'est le port d'Anvers, en tout cas dans cette émission, en Belgique. Un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Lakshmi Lota.
Dans le port d'Anvers, des milliers de conteneurs multicolores sont déchargés. Dans ce secteur, la Chine, c'est 10% du trafic. Le premier armateur chinois, Cosco, a investi dans un terminal, un signe positif pour Danny Dekkers, conseiller marketing au port d'Anvers.
Pour nous, c'est intéressant d'avoir un client de telle envergure, parce que ça nous rassure qu'ils vont faire escale à Anvers, qu'ils sont contents à Anvers, et que automatiquement aussi, ça va nous apporter beaucoup de conteneurs, avec bien entendu des cargaisons dans les conteneurs, qui nous intéressent aussi pour la logistique à la valeur ajoutée.
Anvers se trouve sur la nouvelle route de la soie grâce au rail Danny Dekkers.
Nous avons une liaison ferroviaire avec la Chine qui passe de Anvers à Chongqing. En 22 jours, on couvre la distance par le train, donc c'est nouveau. Et on ira à 12 jours à l'avenir. Et ça bat nettement, évidemment, le trajet maritime qui est de 35 jours. Ça passe justement par le Baltique, par la Russie, la Sibérie, etc. Donc là, on parle bien entendu de la réouverture de la route de la soie. Nos partenaires chinois voient Anvers aussi comme un carrefour en Europe sur justement cette ligne de la route de la soie qui va se réouvrir.
Mais les investissements chinois peuvent susciter l'inquiétude. Pour le président de la Chambre de commerce belgo-chinoise à Bruxelles, Bernard De Witt, il représente au contraire une chance, capitaux frais, ouverture pour les entreprises européennes sur le marché chinois. Bernard De Witt.
Je crois à une période où nos économies en Europe sont à la recherche d'un nouveau souffle. Le fait de pouvoir nouer des partenariats avec des entreprises chinoises me paraît important. On a trop tendance à voir les entreprises chinoises comme des tueurs, comme, je dirais, des entreprises qui vont provoquer le chômage, qui vont provoquer la fermeture de nos entreprises. Je crois au contraire que ce n'est pas en fermant nos frontières que nous allons résoudre ces problèmes.
Pour les représentants du port d'Anvers, pas de doute, il s'agit bien d'une coopération commerciale qui va dans les deux sens.
Un reportage signé Lakshmi Lota à Anvers. On a entendu la même chose dans la bouche de ses représentants, de ses dirigeants anversois, que ce que nous disait le ministre géorgien de l'économie, c'est-à-dire... On espère profiter de ces lignes de chemin de fer, de ces routes, pour exporter à notre tour vers la Chine. C'est une vue de l'esprit, Jean-Paul Larson ?
Non. Leur reportage sur Anvers est très, très, très représentatif. La même situation se passe à Rotterdam et à Hambourg. Donc, effectivement, ça accroît la possibilité pour nos exportateurs à nous d'accéder au marché chinois. Il y a un petit risque de protectionnisme, parce que pour le moment, les échanges sont déséquilibrés. Mais on peut, donc nos exportateurs peuvent profiter de cette route nouvelle pour exporter. Je prends un petit exemple. Alibaba, qui est à la capacité de vendre en Europe.
Alibaba, c'est le grand site internet chinois.
Oui, c'est le...
C'est l'Amazon chinois.
L'Amazon chinois va se servir de la route de la soie virtuelle, mais il faut bien livrer le paquet au dernier, le dernier kilomètre. Va se servir de ce concept, tous ces instruments-là, pour pouvoir mettre dans son site chinois des produits européens. On pensait par exemple à Nicolas pour les vins, ou ça pourrait être les produits de la Fnac. Donc ça va susciter un commerce dans lequel ces firmes-là pourront vendre à la Chine par Internet, mais il faudra transporter les produits, comment ? Par container, comment ? Par bateau ou par train.
Laurent Bouy, vous avez vu passer dans le sens Europe-Chine des containers ?
Alors oui, les trains ils circulent évidemment dans les deux sens et les camions c'est pareil sur les routes. Manifestement les trains reviennent quand même beaucoup à vide, donc ça c'est quand même un problème. C'est aussi un problème de rentabilité pour le coup pour cette histoire de train, parce que des trains qui reviennent à vide ça coûte cher.
Eh bien, c'était le dernier mot de cette émission, elle-même dernière émission de cette année 2016. Merci à vous trois, Philippe Lecor à Washington, Jean-Paul Larson et Laurent Bouy ici en studio, de nous avoir accompagnés. Guillaume Munier, comme tout au long de l'année 2016, était au pupitre technique pour réaliser et mettre en onde cette émission. Et à vous toutes et à vous tous qui nous écoutez tout au long de l'année, merci de votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, donc l'année prochaine en 2017, pour de nouvelles aventures économiques dans Éco d'ici, Éco d'ailleurs.
Éco d'ici, Éco d'ailleurs,